Éducateur. Alors, petite question. Éduquer. Éduquer. Le mot éduquer, on se rappelle? Ça vient d'où ce mot éduquer? C'est quoi ce mot français là? Éduquer. Allez-y. Les profs là. Pardon? Faire grandir. Conduire. Conduire dehors. Educit en latin, c'est conduire dehors. Et c'est tiré de la parabole du bon berger. Lorsque Jésus dit, il est dit, il les conduit dehors. En latin, c'est educit. Et ça a donné le mot éducation en français. Le mot éducation parle du berger qui veut conduire ses brebis. Ça, c'est fabuleux. Et le mot enseignant, enseignant, enseignant. Allez, être un signe, porteur de signes. Et la Bible dit, les ennemis de Dieu enlèvent les signes et ils mettent à la place leurs propres signes. Mais Dieu dit, moi je lève une génération d'enseignants qui soient mes signes à moi. Et dans un monde où il n'y a plus de signes, où il n'y a plus de direction, où il n'y a plus de sens, vous êtes des porteurs de sens. Ça, c'est être enseignant. C'est une vocation. Et je bénis Dieu aussi pour les crèches, ceux qui sont avec les tout-petits, parce que nous sommes dans une société où le combat, il est dans les extrêmes, avec les tout-petits et avec les vieillards, les faibles, les vulnérables. Eh bien, Dieu veut vraiment vous donner l'onction. Et je pense qu'on n'a pas fini au niveau de la créativité et de la vie de Dieu à transmettre. Alors, vous avez vu. Alors, on célèbre les. Alors, heureusement qu'on n'est pas un nombre trop trop important, parce que s'il faut célébrer chaque anniversaire, on n'a pas fini. Mais on en profite pour l'instant. Et notre mission d'église, je rappelle, c'est d'être une famille. Donc, on donne des nouvelles, on prie les uns pour les autres, on prie pour ceux qui sont envoyés. Je dis ça pour ceux qui nous visitent, parce qu'ils se disent, mais c'est un peu bizarre ces cultes-là. Ben oui, on célèbre les réussites, on célèbre les changements, on donne l'occasion de témoigner. Une famille. Une famille qui célèbre. Qui célèbre quoi? On se rappelle, qui célèbre quoi? Josué, une famille qui célèbre la présence de Dieu. Deux, qui manifeste quoi? Son amour. Oui, qui manifeste son amour et qui incarne son royaume. Ça, c'est notre mission. C'est ta mission en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, mais c'est une mission d'église, être une famille. Donc d'abord, c'est être, c'est pas faire. C'est être une famille. Et je rappelle, le plus grand des gouvernements, c'est une famille. C'est le plus grand des gouvernements, c'est la Trinité. Et l'esprit de famille, c'est pas seulement on est gentil, on est sympa, tiens, on tape sur l'épaule, on s'aime bien, vous voyez, c'est pas seulement ça. Il y a une autorité dans l'esprit de famille. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Père, Fils, Esprit, Esprit de famille, on s'honore l'un l'autre, on crée le monde, on gouverne le monde. Et cette Trinité-là, cet esprit de famille, c'est pas les bisounours, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, voilà, on s'aime bien, l'Église, on sait chaud. Non, non. L'esprit de famille, il est là avec cette dimension aussi de gouverner. Et ça, c'est extraordinaire. C'est tout à fait unique dans la parole de Dieu. Ce n'est pas les chefs, vous savez, qui gouvernent comme ça. Moi, je suis le chef, moi, je commande. Ce n'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est l'amour dans une famille. Et cet amour, cet esprit de famille amène un gouvernement. Et le gouvernement, c'est aussi la louange. Donc, rappelez-vous, la semaine dernière, moi, ce qui m'a porté cet été, en particulier pour cette année. L'année passée, à fin août, je vous rappelle, j'avais prêché sur la tempête, hein, Pierre qui est dans la barque, et puis la tempête qui vient, et puis on a eu des tempêtes l'année passée. C'était pas facile, hein, l'histoire de locaux, ça, c'était pas simple. Il y a eu cette tempête. Et aujourd'hui, alors c'est mieux comme message, hein, c'est célébrer. Éphésiens chapitre 1, célébrer. Trois fois ça revient, célébrer, célébrer. Le but de la vie, célébrer. Je reviens sur quelques points qu'on a vus hier, et puis je vais aller plus loin. Hein, il est dit que Jésus a payé pour nous tous. Rappelez-vous le dessin humoristique, je n'ai pas montré, mais rappelez-vous cette histoire extraordinaire. Ce vieux notaire qui rassemble les enfants, le papa est mort. Et alors tout le monde dit, qu'est-ce qu'on va recevoir? Hein, qu'est-ce qu'on va gagner? Alors ils sont là, ils écoutent. Et le gars, il lit le texte. Et ce texte est extraordinaire. Quand ce texte, il dit, voilà moi. John, John, saint de corps et d'esprit, j'ai tout dépensé. Alors les gens, c'est la chute, il a tout dépensé. Mais avec Jésus, c'est le contraire. Hein. Rappelez-vous, moi, Jésus-Christ, j'ai tout payé. Et donc, Éphésiens nous montre ce que a gagné Jésus pour nous, tout ce qu'il a gagné. Et quand on réalise ce qu'il a fait, et ce qu'il nous a donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a la célébration. Et la célébration, elle est nourrie par la connaissance et la reconnaissance de ce que Jésus a fait. Donc rappelez-vous, trois bénédictions dans Éphésiens 1, le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père, il nous a élus avant que le monde soit créé. Donc ça, c'est extraordinaire. Tu te rends compte, avant que tu sois né, Jésus a dit, celui-là, je le veux. Celui-là, il sera pour moi, ça sera mon ami. Avant que le monde soit créé. Tu as été voulu de Dieu avant que le monde soit créé. Ça, c'est en train de nous... C'est pas le hasard. C'est pas un jour papa, maman, ils ont eu l'idée de faire un enfant, ce serait sympa. Bien sûr que Dieu utilise les hommes, bien sûr. Mais il t'a voulu. Et cette compréhension de l'élection, pourquoi il m'a aimé? J'ai rien d'aimable. Il m'a aimé avant que je fasse quelque chose. Vous vous rendez compte? Ça, c'est Dieu. Avant que tu parles, avant que tu naisses, Dieu t'a aimé. Et cette compréhension-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pousser l'adoration. Donc il nous a élus, il nous a adoptés. Je rappelle l'adoption, Dieu qui fait pas seulement, il nous adopte comme enfants, mais il nous adopte comme fils. Pourquoi il nous adopte? Parce qu'il veut nous donner l'héritage. Il veut nous donner l'héritage. Et Jésus, cette parole qui dit, il a fait de nous des co-héritiers. Ça veut dire que Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il a choisi de ne pas hériter tout seul. Il a dit, moi je vais hériter avec vous. Il s'est comme limité. Il a dit, voilà, l'héritage c'est le cosmos, c'est le monde, tout m'appartient. Et je veux le prendre avec toi. Comme Gédéon l'a entendu, il a dû chasser Madian, reprendre ce qui était volé. Nous sommes appelés à reprendre ce qui nous était volé. Mais d'abord, ceux qui ont l'héritage, ce sont des fils. Donc, l'héritage, c'est pas « je prends au nom de Jésus ». Non, non, non. C'est savoir qui on est. On est fils de Dieu et fille de Dieu. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les galères dans ta vie, tu es fils et fille. Et tu as un héritage. Et l'héritage que Dieu a prévu pour toi, il est bon. Et quand on comprend ça, alors il y a de la célébration qui vient. Il nous a accordé sa grâce, on en a parlé. Les bénédictions du Fils, il nous a rachetés, pardonnés. Il a révélé la volonté de Dieu pour nous. Et c'est quoi cette volonté de Dieu? Rappelez-vous, il y avait un mystère caché de tous les temps. Et Éphésiens 1 révèle ce mystère. Ce mystère, c'est que Jésus est venu. Pas seulement les pauvres petits, ils ont besoin d'être sauvés, tout ça. Bien sûr que le salut. Mais Jésus est venu pour réconcilier tout ce qui est dans le ciel avec tout ce qui est sur la terre. Et ça, en tant qu'individu, en tant qu'Église, on doit le saisir, ça. Cette façon de faire de Dieu, d'aimer ce royaume, cette présence, cette paix, cette joie, Dieu dit, j'ai payé pour qu'il y ait réconciliation. Partout où tu es amené à amener le ciel sur la terre là où tu es. C'est pas à toi de subir les atmosphères, c'est à toi de changer les atmosphères. Non pas par des forces, par des prodiges, mais simplement parce que tu es fils et tu as confiance. Et quand tu as confiance, le ciel est libéré. Alors, nous sommes aussi héritiers. Et les bénédictions du Saint-Esprit, on en a parlé, il nous a scellés. Le sceau du Saint-Esprit, c'est un gage. Pourquoi on sait que Dieu est vivant, qu'il nous aime, qu'il a cet héritage? Parce que le Saint-Esprit en nous l'atteste. On n'est pas là avec l'autosuggestion. Quoi. Ça va aller bien, ça va être super, Dieu va restaurer toute chose. Non, non. Le Saint-Esprit en nous nous a convaincus. Et c'est cette œuvre de l'Esprit, ce gage, s'il a pu faire ça dans notre vie, s'il a pu faire ça maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment le prémisse, dit la Bible, de ce qu'il va complètement accomplir. C'est le mystère du royaume de Dieu qui est déjà là, dans ton cœur, dans ta vie, au milieu de nous, et qui n'est pas encore tout à fait manifesté. Donc voilà ce que nous avions vu. Donc célébration, c'est on célèbre quoi? Les richesses qu'il nous a données. Et les richesses de Dieu, elles sont d'abord spirituelles. Toutes les richesses matérielles et autres découlent d'une source qui est d'abord spirituelle. Les richesses de Dieu sont d'abord spirituelles. Et celles-là, elles s'achètent avec aucun argent, avec aucun or. Elles ne s'achètent pas. Elles se reçoivent dans la foi. Il y en a un qui les a achetées. Et nous n'avons plus à les acheter. Nous avons à les recevoir. Et ça, c'est des grands cadeaux de Dieu. Et j'avais terminé l'adoration qui a deux buts. La célébration, c'est la rencontre avec Dieu. Donc, on célèbre sa présence, on le rencontre dans un climat de reconnaissance. Et puis, ce climat, cette adoration, elle amène l'action. D'abord, elle amène l'action de Dieu, parce que la Bible dit quand tu loues, quand tu célèbres, eh bien, Dieu est présent. Et quand il est présent, il agit dans les cœurs. Donc, ça libère l'action de Dieu. Pour toi, pour nous, et ça libère l'action de Dieu au travers de nous. C'est pour ça que Dieu a dit, je cherche d'abord des adorateurs. Parce que l'adorateur, il comprend le cœur de Dieu, et il a la capacité de libérer le bras de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en position d'être assis avec le Seigneur dans les lieux célestes. Et donc, Apocalypse 3, 7, lorsque l'apôtre parle aux églises, à Philadelphie, rappelez-vous, Anne Griffiths, qui est venue parmi nous, elle a dit, vous êtes église Philadelphie. Et plusieurs prophètes l'ont dit, et Philadelphie, c'est deux choses, c'est amour fraternel, et puis la deuxième chose, c'est la louange. Donc louange et l'unité. Amour fraternel, une famille qui célèbre. Donc une famille, mais qui célèbre. Et pourquoi une famille qui célèbre? Parce que Dieu, j'ai terminé la dernière fois, il y a des portes à ouvrir. Donc Dieu suscite, il restaure dans le monde entier la louange et l'adoration. Depuis quelques décennies, il y a une restauration de la compréhension de ce que c'est, de qui nous sommes, parce qu'il y a des portes à ouvrir que seule la louange et l'adoration peuvent ouvrir. Et c'est ce que la Bible appelle dans Amos 9, on le lit, c'est le prophète Amos qui dit « En ce jour-là, et il annonce la Pentecôte, mais qui a fait qu'un début au temps des Actes des Apôtres, qui continue aujourd'hui, en ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David. » qui est tombé. Je fermerai ses brèches, je relèverai ses ruines et je le bâtirai comme au jour d'autrefois afin qu'il possède le reste des hommes. Vous avez remarqué? Je restaure un tabernacle, donc c'est la louange, c'est la présence de Dieu, afin qu'il possède. C'est pas afin qu'il soit bien, c'est pas afin qu'il soit heureux, c'est pas seulement ça, c'est je restaure la louange afin qu'il possède leur héritage. Donc, afin qu'ils possèdent le reste des hommes, toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit l'Éternel qui fait cela. Donc, il y a un rapport entre la célébration et l'héritage. Et ensuite, il est dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, et les montagnes ruisselleront de moue, de toutes les collines se fondront, et je rétablirai les captifs de mon peuple d'Israël, ils bâtiront les villes dévastées, ils y habiteront, ils planteront les vignes, boiront du vin, ils feront des jardins, ils en mangeront le fruit, et je les planterai sur leur terre, ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a cette compréhension de ce climat de louange qui va avec l'héritage de la terre que Dieu nous donne. Et donc, dans ta vie personnelle, si tu veux garder l'héritage et prendre tout l'héritage que Dieu a pour toi, eh bien, quelles que soient les circonstances, Dieu t'appelle à l'adorer. Et dans ce climat d'adoration, eh bien, l'autorité que Dieu t'a donnée est appelée à grandir. Et ce n'est pas une autorité pour écraser les autres, c'est une autorité pour servir, mais une autorité pour grandir et pour servir. Donc je rétablirai, vous habiterez, vous serez plantés, vous bâtirez, tout ça, l'adoration, présence de Dieu, l'adoration qui libère l'action. Et on continue un petit peu aujourd'hui, plus nous avons par exemple dans le psaume 68, on est toujours dans l'explication de célébrer Dieu, que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent s'enfuient devant lui. Comme la fumée est dissipée, tu les dissiperas. Comme la cire se fond dans le feu, les méchants périront devant Dieu. Mais les justes se réjouiront. Ils exulteront en la présence de Dieu. Ils s'égayeront avec joie. Chantez à Dieu, chantez son nom. Dressez un chemin à celui qui passe comme un cheval par les déserts. Son nom est Yah, réjouissez-vous devant lui. Donc vous voyez, que Dieu se lève, ses ennemis soient dispersés, et vous avez le climat de louange et d'adoration. Alors que Dieu libère les ennemis. Je me rappelle au début de notre conversion, il y a une trentaine d'années, il y avait un livre fameux qui passait dans les milieux chrétiens, milieux charismatiques, les anciens là, peut-être se rappellent, c'était le livre de la prison à la louange de Carothers, un fondamental. Et d'ailleurs, je vous inviterai à, si vous ne l'avez jamais lu ce livre, à le lire. Et c'est une révélation que Dieu redonnait à l'Église de la puissance de la louange en tout temps, qui est bardée de plein de témoignages de libération, de percée, grâce à simplement la reconnaissance. C'est quand même ça, l'évangile est simple. C'est reconnaissance, célèbre Dieu. Et voilà. Donc le tabernacle de David, il restaure cette autorité. Psaume 110, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Et Sion dans la Bible nous parle d'abord de Sion, Jérusalem, mais aussi spirituellement, ça nous parle de la louange, la présence de Dieu. Donc c'est de Sion qu'il y a le sceptre de l'autorité. Et je crois qu'en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur cette année, votre autorité, elle ne vient pas d'abord ni d'un ministre, ni d'un gouvernement, elle vient aussi de là, attention, hein. Mais la véritable autorité, elle a sa source en celui en qui toute autorité a été donnée, d'accord ? Et c'est Jésus. Donc la source de votre autorité pour enseigner, elle est dans le Christ. Et la source de l'autorité, elle vient quand on est soumis à l'autorité. Alors écoutez-moi bien là, être soumis à l'autorité. Il y en a qui disent, moi je suis soumis qu'à Dieu seul. D'accord ? Attention à ça. Parce que Dieu choisit toujours son Église, des hommes et des femmes, qui ne sont pas parfaits. Mais Dieu, il respecte les systèmes d'autorité. Et quand on dit « je suis soumis à Dieu », c'est-à-dire que j'ai la capacité d'être soumis à ceux que Dieu a choisi et a mis dans ma vie. L'incapacité de soumission, je pose la question, à qui es-tu soumis dans ta vie ? Si tu dis qu'à Dieu, fausse doctrine, tu es à côté des Écritures. Mais si tu as des hommes et des femmes que Dieu t'a montré, t'a dit « je suis redevable », là tu rentres dans un processus que Dieu honore. Donc il est important, la restauration de l'autorité, elle vient quand on est soumis à l'autorité. Et même un ministre inique d'éducation nationale, etc., il y a un sens de l'honneur, il y a un sens de l'honneur, il y a un sens de l'autorité. Et Dieu nous dit, voilà, bien sûr, s'il y a des choses contraires à notre foi, alors il y a un moment, il faut réagir, mais attention, un esprit souvent de rébellion, de révolte, qui enlève la louange. Hein, qui enlève. Même Daniel, devant le roi de Babylone, occultisme, tout, il l'honorait. Il l'honorait. Regardez comment il lui parle. Quel honneur. Donc, nous sommes le climat de louange, c'est un climat d'honneur. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Et Sion représente les véritables adorateurs. Les véritables adorateurs. Donc, quand David, regardez l'histoire de David, David, c'était pas facile, il y avait Saül qui avait le roi, mais Saül, c'est l'image de celui qui veut adorer comme il l'entend lui. Voilà, c'était le roi et puis il s'est cru le chef de tout. Et il a usurpé l'autorité que lui a donnée, il a cru qu'il pouvait prendre le rôle de prophète, de sacrificateur, alors que Dieu a dit « tu n'es que roi ». Et Saül a usurpé, et donc il est tombé. Il en a fait qu'à sa tête. D'ailleurs, la Bible dit que Saül avait une tête de plus que tous les autres. Cette pauvre tête de plus, c'est cette tête qui l'a fait tomber. Voyez, ça, Saül nous parle de l'humanisme. Je veux servir Dieu, mais comme moi je pense. Voyez, ça c'est Saül. Mais Dieu à côté, il lève un David. Et la caractéristique de David, c'était qu'il adorait Dieu. Depuis enfant, il adorait Dieu. Les vrais adorateurs, Dieu lève une génération aujourd'hui d'adorateurs d'abord. Et c'est dans l'adoration qu'ils vont régner. Et David avec sa harpe, rappelez-vous, Saül rempli de démons, le petit David avec sa harpe, et les démons se calmaient. Je dis, ça c'est l'adoration. Les démons d'une ville, ils se calment quand une église loue et adore. Rappelez-vous Anne Griffith, qui a vu la France, image de la France, et elle a vu une immense toile sur la France, une tente, et des piliers qui tiennent la toile. Ici, c'est un des piliers, pas le seul, mais c'est un des piliers qui tiennent la toile du tabernacle, de l'adoration, de la maison de Dieu. C'est pour ça la maison de prière, l'adoration, les tabernacles de louange, c'est pas seulement, tiens, on aime bien chanter, on aime bien la musique ici, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais on a compris que célébrer Dieu, ça a amené le sceptre du Seigneur au milieu de nous. La restauration de la louange va de pair avec le rétablissement de l'autorité de Dieu sur la terre. Il y a dans la louange des répercussions terrestres, culturelles, sociales. Et Dieu fait toujours précéder ces nouvelles bénédictions dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de Dieu que la Bible nous relate. Ça commence, les grands événements commencent toujours dans de l'adoration. Alors je rappelle, hein, peut-être c'est... Rappelez-vous, comment s'est créé le monde ? Quel était le climat de la création ? Quand Dieu a créé, le climat c'était la louange. Est-ce que vous le saviez ça ? C'est la Bible qui le dit, Job 38. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? C'est Dieu qui parle à Job. Déclare-le-moi. Si tu as de l'intelligence, qui lui a établi sa demeure si tu le sais ? Qui a étendu le cordeau sur elle ? Sur quoi ses bases sont-elles assises ? Ou qui a placé sa pierre angulaire ? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Les étoiles ont chanté de joie. Là, c'est une description de la création du monde. Ça s'est fait dans un concert de louanges, mes amis, un concert cosmique où les étoiles chantent, où la création entière célèbre cette création. Donc ça, les fils de Dieu, c'est les anges, on peut penser. Donc voilà. Ensuite, Israël. Dieu dit, je veux faire un peuple. Et quand Dieu a fait de ce peuple de ramassis d'esclaves, il a commencé à le mettre à part. Il sort de la mer Rouge, il célèbre Dieu. On est sorti d'esclavage. Puissant, tout un peuple, 1 million de personnes qui se mettent à danser, à louer, à célébrer. Et ça, c'était le début d'une nouvelle saison. Un peuple qui allait être une bénédiction pour toute la terre jusqu'à aujourd'hui. Mais ça a commencé par un climat de louange et d'adoration. Durant la période de Samuel, alors là c'était un peu le bazar, parce qu'il y avait des juges, il n'y avait pas droit, c'était un peu la guerre en Israël, il y avait des ennemis, tout ça. Et Samuel le prophète, un enfant, Samuel était un enfant. Et cet enfant qui a grandi dans la présence de Dieu, qui est devenu ce prophète, qui a changé la culture, la mentalité de tout Israël. Et cette période de Samuel, il y a eu des écoles de prophètes. C'est des écoles d'adorateurs. Il y avait une telle onction dans ces écoles que même le pire des fripons qui commençait à fricoter, à se mettre avec eux, il était saisi dans l'ambiance. Saül, par exemple, il arrive, toutes ses idées tordues, tout ça. Il arrive, le persécuteur de David, il baigne dans cette école de prophètes, il se met à prophétiser, à chanter. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc, toute cette adoration qui est remontée au temps de Samuel a préparé quoi ? Elle a préparé la royauté de David. Elle a préparé le chemin pour que David, qui est déjà un prémisse de la royauté de Jésus, eh bien, ça appelle cette royauté. Donc, là, c'est la période de Samuel, donc beaucoup de louanges, d'adoration. Et puis, il y a le temps d'Esdras aussi, on retrouve la louange, et puis 400 ans de silence de Dieu. 400 ans de silence, Malachie. Et avant la venue de Jésus, qu'est-ce qu'il y a eu ? Des concerts d'adoration. Vous avez, regardez, les anges, les bergers, tout ça, ils voient les anges chanter. Jésus est venu en tant que bébé, dans un climat de louange et d'adoration. Eh bien, la présence de Dieu, aujourd'hui encore, et c'est plus le bébé aujourd'hui, d'accord ? C'est le lion, c'est le fils. Il vient dans le climat de louange et d'adoration. Les bergers, c'était ceux qu'on méprisait, c'était ceux qu'on ne voulait pas fréquenter, c'était les plus pauvres des pauvres, les rejetés, et c'est eux que Dieu a choisis. Et donc la louange qui est humble, qui se sait petite, mais qui sait que Dieu est grand, cette louange-là, elle a attiré le Fils, et on est changé d'air. Et pour Zacharie aussi, hein, quand sa bouche s'est ouverte, il était muet, parce qu'il ne croyait pas, il ne croyait pas. Il n'avait pas confiance en Dieu, donc hop, tu te tais maintenant. Il ne peut plus parler. Et voilà. Et quand sa bouche est ouverte de nouveau, la première chose qu'il a dite, ce n'est pas « Ouf, oh là là, j'étais mal ». Non, il a dit « Waouh, Seigneur, tu es bon, tu es grand ». Louange. Dieu a dit « Tu te tais ». Tu loues ou tu te tais, quoi. Hein ? Et souvent, nous, parfois, on ferait mieux de se taire quand on a à râler. Et Dieu dit, arrête de râler, loue-moi. Mais Seigneur, loue-moi. La Bible dit, louer en tout temps. Alors ça, c'est... Alors je reviens à des basiques hein, ce matin. Mais cette notion de célébration, elle est liée avec la restauration. Acte 3, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. En sorte que viennent des temps de rafraîchissement. Et on voit que les actes des apôtres, ils étaient en train d'adorer dans la chambre haute. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu ? Voilà, encore une fois. Et Dieu dit, et voilà, et tout ça, c'est jusqu'au rétablissement de toutes choses. Enseignants qui êtes là, vous êtes porteurs d'un message d'espérance. Même sans, si vous êtes dans le laïc, tout ça, vous n'êtes pas obligé de, bien sûr, de citer la Bible, tout ça, il n'y a pas besoin. Mais vous savez qui vous êtes, vous savez qui vous a envoyé, vous savez où vous allez, vous savez qui est avec vous, et vous libérez la joie et la paix qui sont la manifestation du royaume. Et vous avez l'autorité dans votre classe de libérer ce que le Christ a fait pour vous. Et ça, c'est la manifestation de Dieu. Donc Dieu dit, voilà, je vais rebâtir. Il y a quelqu'un qui disait, alors j'ai pas... Ça se vérifie dans l'histoire de l'Église, mais c'est étonnant. Il fait le parallèle, est-ce que vous avez déjà entendu cet enseignement ? Tout à fait étonnant. Il fait le parallèle entre le tabernacle de Moïse, avec les différents objets, Par exemple, avant d'entrer dans le tabernacle, eh bien, il y a l'autel d'airain pour les sacrifices. Ensuite, il y a les bassins de purification. Ensuite, il y a le lieu saint, alors éclairé par les chandeliers, voyez. Ensuite, il y a la table des pains de proposition, voilà. Et il y a l'autel des parfums. Et derrière le voile, il y a la présence de Dieu. Eh bien, quand on regarde l'histoire de l'Église, il y a comme une... Dieu restaure beaucoup de choses et de compréhension de qui il est, de ce qu'il a fait. Il y en a qui parlent de Martin Luther comme étant on retrouve la vertu du sang de Jésus, le salut. Dieu est venu pour nous sauver, le sang expiatoire par la foi, par la justification. Et ça, c'est comme l'autel d'airain, le sacrifice. Il a été sacrifié pour moi, il m'a rendu juste, il m'a couvert, hein, le sacrifice, Luther. Sanctification, Wesley, se laver les pieds, se laver l'autel de les cuves, se laver, c'est la compréhension de la naissance de nouveau. Je suis né de nouveau, je suis lavé, son sang m'a lavé. Ensuite, le lieu saint, il y en a qui parlent de ce chandelier qui représente l'esprit. Réveil pentecôtiste, début du XXe siècle. L'esprit de Dieu qui veut nous remplir, l'esprit de vérité. Ça, c'est, il y en a qui disent que voilà, l'œuvre du Saint-Esprit, les fruits et les dons en même temps. Il y en a qui ne veulent que les fruits, il y en a qui veulent que des dons. Dieu dit, arrête, prends les deux. Il y a une bataille dans l'Église parfois, mais c'est terrible ça. Oui, mais les fruits, mais attends, il faut les dons aussi. On a besoin des deux. Donc, ça parle un peu le chandelier, le Saint-Esprit qui brille. Et Saint-Esprit, le réveil du Saint-Esprit, on a tellement besoin. Et ensuite, la table des pains de proposition, on parle de cette communion de tous les courants chrétiens. C'est-à-dire, on ne se rassemble non plus autour d'une doctrine, mais on se rassemble autour de la personne de Jésus. Et ça, c'est nouveau dans le monde. C'est un mouvement depuis 20 ans, 30 ans, ça vient. Et les jeunes, ils s'en foutent des dénominations. Ils disent, mais nous, c'est le Christ. Alors bien sûr qu'on est, on est des hommes, on a besoin d'une famille, et chaque famille a une couleur. Mais au-delà de tout ça, on sert le Christ. Et c'est ce pain qui est un seul pain. Et nous sommes un seul pain. Et quand le monde doit nous voir, il doit avoir envie de manger ce bon pain. Quand vous passez devant une boulangerie, ça sent bon. On a envie de rentrer. Et ben, imaginez que ça sente le bon pain. Parfois, une fois, j'ai eu l'expérience dans un climat d'adoration. Il y a une odeur, plusieurs fois c'est arrivé, mais une fois, il y a une odeur du pain. Il y a une odeur du pain. Il n'y avait pas de pain, hein, mais il y a une autre. On était dans un climat d'adoration. Ça a senti le pain. Et je crois qu'on est appelé à être un bon pain. Un pain qui se mange, qui donne envie. Et le regain de l'adoration, ben, c'est l'autel des parfums. Alors les parfums, l'autel des parfums, c'est la prière, c'est célébrer Dieu. Éphésiens chapitre 1. Donc ça, alors ce parfum, et un peu de détail là, il est fait, c'est l'encens, hein, l'encens. Et je rappelle, pour les adorateurs qui êtes là, c'est important, l'encens était composé de trois ingrédients, et chacun de ces ingrédients est drôlement intéressant. On voit ça dans Exode 30, verset 34. Le galbanum, alors ça veut dire quelque chose de gras, quelque chose de bien épais. Le mot veut dire meilleur, le meilleur, succulent, morceau de choix. Donc ça, c'est le galbanum, au sens figuré, c'est-à-dire j'apporte ce que j'ai de meilleur, mon offrande, mon temps, mes dons, mes finances, ma foi, ma confiance. J'apporte ce que j'ai de meilleur. La louange, c'est ça. Tu n'apportes pas le résidu. Tiens, je vais dimanche, tiens, je vais un peu louer 15 minutes, là, ça va être sympa. Non, non, c'est j'apporte le meilleur, avec toute ma force. Ça, c'est le gabanum, voyez. Si nous voulons que Dieu nous donne le meilleur, il nous a donné le meilleur, mais si nous voulons le recevoir, nous devons céder à parfois ce qui nous est le plus cher. Dieu dit, apporte ta vie comme un sacrifice et sois renouvelé dans l'intelligence. C'est un culte raisonnable à Dieu. Apporte ta vie, donne ta vie. Et c'est en donnant notre vie qu'on est libéré de tout esclavage. Ensuite, le stacté. Alors c'est un beau mot qui veut dire la rosée, dégoutter, découler, ruisseler. Et de façon, si vous voulez, symbolique, parler, prophétiser, dire ce que Dieu dit. Parler, que ça... Vous voyez, quand tu lis la parole, quand tu es imbibé de lui, ça coule, ça coule, ça coule. Dieu veut mettre dans ta bouche une parole inspirée. Vous qui êtes enseignant, une parole inspirée pour vos élèves, une parole d'encouragement, une parole simplement qui dit, tu es précieux pour moi, tu vas y arriver. Moi, je t'aime. Tu es précieux, tu sais. Ta vie est précieuse. Tac, tac, tac. Une parole de Dieu suffit pour éclairer une journée et parfois pour éclairer une vie. Dans ta bouche, éducateur, enseignant, il y a le pouvoir de la mort et il y a le pouvoir de la vie. Et tu es amené à donner la vie. Et si tu vois le Christ, ce qu'il dit de toi, ce qu'il voit de toi, tu ne peux que célébrer. La Bible dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et puis l'onyx. Alors l'onyx, c'est un ingrédient dans l'encens. Il s'agit, alors je cite, j'y connais rien, je fais confiance au dictionnaire, j'espère que c'est bon. Je cite, écoutez-moi, ça c'est fort ça. Il s'agit sans doute de l'opercule. L'opercule, ça vous dit quelque chose? L'opercule, du coquillage, du mollusque. Le strombe. C'est merveilleux ça. Le strombe, ça dit quelque chose, prof de bio là. Ça dit quelque chose, le strombe? Non? Moi je trouve que c'est un mot qui est charmant. Le strombe. Hein? Alors, on va voir. Bon. Et il dit que quand on brise cette coquille-là, il y a un parfum tout à fait particulier qui en émane. Mais la racine du mot veut dire rugir, lion rugissant, agir comme un lion redoutable. Alors, chacun d'entre nous, on rappelle, on est à la fois un agneau et à la fois le lion de Juda qui habite en nous. Je me rappelle un jour, on avait un tabernacle de louanges. Il y avait ton petit-fils, Ruben. Il avait quel âge? 5 ans. On était en pleine louange, qu'on adore. Tout d'un coup, il fait... Tu sais, le lionceau, quoi. Mais il y allait, on n'arrivait plus à l'arrêter. Mais nous, il n'y avait pas de rapport avec le chant. Voilà. Enfin, c'était étonnant, ce truc-là, quoi. Nous, on ne lui avait rien dit, on ne lui a pas dit, sois un petit lionceau, non. Il l'a senti dans l'esprit, il était sensible et il s'est mis à rugir. Il s'est mis à rugir. Bon, avec une grand-maman qui rugit, parfois il s'est dit, je vais faire pareil. Bon. Voilà. Et je termine par la louange donc, et la responsabilité. On a parlé de Gédéon tout à l'heure, c'est pour ça que j'aimerais terminer, je pense, par cette idée de Gédéon. Gédéon, donc, il a sauvé ce peuple d'Israël, il a gagné Madian, mais écoutez bien, donc là, ça parle de la louange, la cruche, c'est donner sa vie, la risquer. Tout a commencé par l'adoration, vous avez remarqué? Il a offert le meilleur repas, ça parle de l'adoration. Il a répondu à l'appel de Dieu, j'adore. Ça, tout commence par là. Mais ensuite, quand Gédéon, il y a eu la victoire, tout ça, vous savez ce que les gens lui ont dit? Gédéon, il faudrait que tu règnes sur nous parce que on a besoin d'un roi. Alors Gédéon, ça paraît très spirituel. Il dit non, il n'y a que Dieu qui règne. Voyez. Mais quelque part, je refuse toute responsabilité. Moi, je vais être tranquille avec mes petits troupeaux, tout ça, ma montagne. Je ne veux pas prendre de responsabilité sur un peuple, surtout le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu cette parabole extraordinaire qui dit, on apporta à Jotham, il s'en alla, il s'en tint sur le sommet de la montagne de Garizim, il éleva sa voix, cria, leur dit, écoutez-moi, homme de Sichem, et Dieu vous écoutera. Les arbres allèrent pour oindre un roi sur eux. Et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Et l'olivier leur dit, laisserai-je ma graisse, par laquelle on honore pas moi, Dieu et les hommes, et irai-je m'agiter pour les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Et le figuier leur dit, laisserai-je ma douceur, mon bon fruit, et irai-je m'agiter pour les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Et la vigne leur dit, laisserai-je mon moût qui réjouit Dieu les hommes, et irai-je m'agiter pour les arbres? Personne ne veut régner, quoi. Et tous les arbres dirent à l'épine, viens, toi, règne sur nous. Et l'épine dit aux arbres, si vraiment vous voulez moindre roi sur vous, venez, mettez votre confiance en mon ombre, sinon un feu sortira de l'épine. Et quand on voit la suite, l'épine dans la parole de Dieu nous parle de la malédiction. Si on ne prend pas nos places et nos responsabilités en tant qu'adorateurs et dans les dons que Dieu nous a donnés, on laisse les épines régner à notre place. Et ça paraît très spirituel de dire, moi je suis tout petit, je suis rien, je peux rien faire, je ne peux pas me lever. Non, c'est pas spirituel du tout. Je laisse les autres, je laisse Dieu. Dieu seul règne. Dieu dit, je veux régner avec toi. Et ceux qui ont fait la formation Timothée l'année passée, vous êtes dans une année où il faudra prendre des responsabilités, vous engager, vous investir, parce que Dieu a choisi de régner, pas tout seul, mais avec toi. Et donc Gédéon, malheureusement, le chaos qui a eu lieu après, il aurait dit, j'accepte. Quelque part, on peut imaginer que ce serait autrement. Et je pense que vraiment Dieu nous appelle en tant qu'Église d'accepter le mandat qu'il nous a donné, qui est d'amener ce règne de Dieu qui se traduit par la paix, la justice, qui se traduit par un climat de louange et pas de critique, un climat de bénédiction, de célébration de ton voisin, de ta voisine, de tes enfants. Nous sommes appelés à célébrer. On ne se trompera jamais quand on célébrera. Dieu ne nous dira jamais « Oh là là, c'était pas bien, t'as trop célébré là ». Non, jamais, jamais. Dieu dira « Mais il faut célébrer plus ». Que chaque occasion cette année soit une occasion de célébrer. Anniversaire, 10 ans de mission, travaux terminés, maladie guérie, on célèbre les amis. Soyons des célébrateurs, ça n'existe pas, on va l'inventer. Soyons des gens qui célèbrent à chaque occasion. Seigneur, merci pour Éphésiens chapitre 1. Merci pour le mystère de ton plan qui est de réconcilier toutes choses avec toi. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour le cœur de louange que tu redonnes à l'Église comme jamais auparavant. Seigneur, nous voulons d'abord être ces adorateurs, cette famille qui célèbre, Seigneur. Et dans ce climat de célébration et d'adoration, tu nous fais rentrer dans l'héritage et tu fais de nous une bénédiction pour notre pays, pour notre ville. Merci pour l'espérance qui est en nous, qui ne trompe pas. Merci pour ce que tu as commencé, que tu vas achever. Merci pour tous ces enfants qui vont être touchés cette année scolaire, par tous nos bien-aimés qui sont là. Merci Seigneur, parce que tu as des bons plans, de projets de bonheur. Merci Seigneur. Nous pouvons faire la différence là où nous sommes et nous déclarons que cette année, nous serons des thermostats qui vont réguler et nous ne nous contenterons pas d'être les thermomètres qui simplement donnent la température.